Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce troisième cours et troisième et dernier cours de ce cycle sur l'idolâtrie dans la Torah. Et il va porter d'une part sur le livre du Deutéronome, que j'appelle le livre de l'anti-idolâtrie, et d'autre part sur la littérature des prophètes, un petit peu aussi sur le livre des juges, mais surtout les prophètes. Alors le livre du Deutéronome, qui est une sorte de condensé de toute la Torah à travers un long discours prononcé par Moïse au seuil de l'entrée sur la terre, n'est pas tant le livre de la description de l'idolâtrie que celui de la brisure des idoles, on le verra. C'est un livre donc iconoclaste ou anti-idolâtre par excellence. Il reprend aussi, tel quel, l'interdit de la représentation énoncée dans les 10 paroles, on l'a vu au second cours, qui reviennent à la paracha de Vaetranan du Deutéronome. Que la prohibition de l'idolâtrie soit centrale au livre du Deutéronome, j'en veux pour preuve les nombreuses occurrences dans ce livre qui insiste abondamment à la fois sur la réalité de la pratique idolâtre sur la terre de Canaan et sur la nécessité d'abattre et de briser les idoles, quelles que soient leurs formes et les lieux où elles se trouvent. Il est important de rappeler que les enfants d'Israël sont alors au seuil de la terre promise et Moïse leur donne des prescriptions concernant la conduite à avoir sur cette terre. Or, cette terre est précisément une terre où l'idolâtrie fleurit, avec les 7 peuples de Canaan, qui sont particulièrement idolâtres. Alors de quelle idolâtrie s'agit-il et qui est Canaan ? Knaan, dans la Torah. Au fond, dans le texte biblique, la figure de Knaan, ou Canaan, comme le peuple lui-même de Knaan, sont très discrets. Ils ne parlent quasiment jamais par eux-mêmes. Que savons-nous de Canaan ? Essayons de faire le point, rapidement. Nous l'avons quitté au livre de la Genèse, alors que l'on disait simplement que Canaan était le 4e fils de Ham, lui-même, 3e fils de Noé. Il avait été maudit par Noar à la suite de ce que lui avait fait son propre fils, donc Ham. Un peu plus loin, lorsqu'Abraham se dirige vers la terre promise par Dieu, nous apprenons que le Cananéen était alors dans le pays, Vaknaani Asbaharet, en Genèse 12. Or Abraham, quant à lui, doit devenir une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Bracha lechol mishpechot adama. En 12.3. Il y a donc un espoir au livre de la Genèse, puisque le béni doit transformer le maudit, lui apporter en quelque sorte sa propre bénédiction. Or, après le livre de la Genèse, tout ce que nous apprenons de Canaan ne présage rien de bon. Ainsi, en Exode, nous avions appris que le Cananéen, qui était donc sur le pays, sur la terre, pratiquait l'idolâtrie, puisque le verset nous disait déjà « Vous briserez leurs monuments, car tu ne dois pas te courber devant une divinité étrangère. » En Exode 34, c'était la paracha de Kittissa. Le Cananéen est expressément désigné comme un peuple idolâtre, donc déjà en Exode. Au livre des Nombres, Bamidbar, il est également fait mention du Cananéen lors des guerres d'Israël dans le désert. Il s'agit alors du Cananéen roi d'Arad, qui combat Israël en 21.1, et qui prend même quelques prisonniers parmi eux. C'est alors qu'Israël, je cite, fit un vœu à l'Éternel en disant « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. » Cherem, en hébreu, l'anathème. L'Éternel écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens, et on les frappa d'anathème, eux et leurs villes. En Nombre 21.2.3. Et voilà que nous abordons le livre du Deutéronome, alors qu'Israël sont au seuil de cette terre, la terre de Canaan, du nom du peuple qui habite sur cette terre. Qu'allons-nous apprendre de nouveau sur le Cananéen au livre du Deutéronome ? Voilà les paroles de Moïse aux enfants d'Israël au seuil de la terre. Je cite en Deutéronome 7.1.2 « Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour le conquérir, quand il l'aura écarté devant toi, ces nombreuses peuplades, le Hédéen, le Girgachéen, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézéen, le Hévéen et les Jébusiens, sept peuplades plus nombreuses et plus puissantes que toi, quand l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les frapperas d'anathème, point de pacte avec eux, point de merci pour eux. » Fin de citation. Alors ces versets sont radicaux, ils ne laissent pas de place à la conciliation. Pourquoi une telle intransigeance envers les sept peuples de Canaan ? La chose a partie liée avec l'idolâtrie, comme on le verra, qui est celle des sept peuples, d'accord, de Canaan. Alors avant d'entamer la lecture du livre du Deutéronome, en suivant donc, comme fil directeur la question de l'idolâtrie, je voudrais me référer à un article qui est particulièrement lumineux selon moi, un article qui aborde les principales pratiques idolâtriques de l'Antiquité et qui vise à déchiffrer leur sens à travers les versets. Il s'agit de l'article de Claude Rivlin intitulé « Les différentes formes de l'idolâtrie dans la Bible et aujourd'hui », paru également dans ce volume que j'ai déjà cité, qui s'appelle « Idole », acte du colloque sur l'idolâtrie en 1984. Alors, selon Rivlin, il existait trois formes d'idolâtrie dans le monde antique, à en croire la Bible hébraïque, l'idolâtrie égyptienne, l'idolâtrie cananéenne et l'idolâtrie babylienne. Je m'intéresserai ici, évidemment, uniquement à l'idolâtrie cananéenne, celle qui nous occupe ici. Elle doit être appréhendée à partir des conditions géographiques du pays, nous dit Rivlin. Contrairement au pays d'Égypte, nous disent les versets en Deutéronome 11, 10, 11, le pays de Canaan a besoin de l'eau des pluies. En Égypte, on pouvait irriguer avec le pied. C'est encore une citation du verset. Au pays de Canaan, impossible de le faire. Nous avons besoin de la pluie pour l'agriculture. Les Cananéens en ont conclu qu'il fallait demander l'aide des dieux qui dispensent cette pluie, qu'il fallait leur plaire. Le dieu de Canaan, c'est Baal, littéralement le maître ou le possesseur. Et Rivlin écrit, « Baal dispense ses bienfaits aux êtres de la nature. Il faut donc leur ressembler. Aussi, l'homme doit-il bannir l'orgueil propre aux Égyptiens et doit se faire très humble, se faire être de la nature, se faire animal. Aussi, le culte de Baal est un culte orgiaque, un culte qui s'accompagne de sacrifices humains, un culte conforme à cette idée que la nature domine l'homme, qu'il doit y céder, que tous les impératifs que la nature lui dicte, il doit leur obéir, faute de quoi elle se vengera et lui refusera la pluie. » Fin de citation, donc l'article de Rivlin en Idole, page 17. On verra comment ce culte de la nature s'exprime dans la pratique idolâtrique des Cananéens, pratique que les enfants d'Israël trouvent en entrant sur la terre de la promesse. Mais le plus étonnant est que ce culte de la nature, qui est aussi un culte du corps, n'a rien d'ancien ni d'archaïque. Il suffit de se promener dans le Tel Aviv d'aujourd'hui, au XXIe siècle, au bord de la plage ou dans les rues de Tel Aviv, pour se rendre compte que ce culte de la nature et du corps est particulièrement vif, actuel. Le culte de la nature s'exprime moins par le nombre d'arbres ou de parcs que par l'amour pour les animaux, par exemple les chiens, qui sont omniprésents à Tel Aviv. Mais le culte du corps, au fait de ce même culte de la nature, est tellement évident qu'il n'est pas besoin d'y insister. Je voudrais lire avec vous le Deutéronome à travers les mentions qui y sont faites de l'idolâtrie et ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Témoin d'un monde moderne devenu post-moderne, post-industriel, un monde qui se veut au-delà de toutes les idéologies, de tous les grands récits, pour parler comme Jean-François Lyotard, un monde qui se proclame revenu de tout, mais qui reste néanmoins encore irréductiblement idolâtre. Alors la première source, elle est halakhique. En fait, toutes les sources du livre du Deutéronome sont halakhiques à propos de l'idolâtrie. Ce sont des sources qui prescrivent l'action engagée contre les idoles dans divers cas de figure. Nous avons déjà commencé à la lire et nous poursuivons ici en entamant l'analyse de l'idolâtrie cananéenne au cinquième livre donc, du Pentateuque. Je reprends la source que j'ai déjà citée en Deutéronome 7.1 et je vais maintenant jusqu'au verset 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour le conquérir, quand il aura écarté devant toi ses nombreuses peuplades, donc vous vous souvenez, je viens de le lire, le Héthéen, le Girgachien, l'Amoréen, le Cananéen, le Phérézien, le Hévéen, le Jébusien, sept peuplades plus puissantes et plus nombreuses et plus puissantes que toi, quand l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les frapperas d'anathème, point de pacte avec eux, point de merci pour eux. Ne t'allie point avec eux, avec aucun d'eux. Ta fille ne la donne pas à ton fils, et sa fille n'en fait pas l'épouse du tien, car il détacherait ton fils de moi. Et ils adoreraient des divinités étrangères. Et la colère du Seigneur s'allumerait contre vous. Et il vous aura bientôt anéanti. Non, voici ce que vous devrez leur faire. Vous renverserez leurs autels, Tatotsu. Vous briserez leurs monuments, Matsevotam Tishberu. Vous abattrez leurs bosquets, Asherem, je dirai un mot de ce que c'est que ces bosquets plus tard. Vous livrerez leurs statues aux flammes, Psilem Tisrefun Be'esh. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Fin de citation. Nous avons parlé d'intransigeance ici. Pas de contact avec les cultures du pays, culture foncièrement idolâtre. Cette intransigeance s'exprime par les gestes de brisure qui visent les objets d'idolâtrie. Ici, ce geste de brisure est dit à quatre reprises. Pourquoi faut-il y revenir à quatre fois? Pourquoi une fois ne suffit pas? En vérité, il s'agit ici de la logique, d'une logique qui obéit à la matérialité même des choses dont il est question. Les autels, on les renverse. Les monuments sont faits de pierre, on les brise. Rachid nous dit qu'il s'agit d'une seule pierre, selon le verset en Genèse 28-22, cette pierre que j'ai posée comme monument, Matseva. Cette action de briser la pierre nous rappelle le geste d'Abraham brisant les idoles de son père, les statues de son père, selon le Midrash. C'est sans doute ici que ce Midrash trouve son inspiration, en faisant de ce geste de brisure le geste inaugural d'Israël, bien avant d'entrer sur la terre de la promesse. Les statues sont faites en bois le plus souvent, ou en métal, on verra avec Isaïe 40. On les brûle. Le modèle ici, c'est l'action de Moïse contre le veau. On se souvient qu'il commença par le brûler avant de disperser sa poussière dans l'eau. Quant aux arbres, on les abat. Attention, il ne s'agit pas d'un simple arbre, etz ou ilan, mais d'un arbre qu'on avait planté explicitement pour le consacrer à l'idolâtrie et qu'on appelle Asherah dans le texte biblique. Les écologistes d'aujourd'hui pourraient s'écrier « Enfin, abattre un arbre n'est-ce pas un plus grand mal que l'idolâtrie elle-même ?» On verra que le culte voué à la nature peut lui aussi être dangereux. L'enracinement au sein de la nature n'est pas une valeur pour la Torah. Au contraire, il faut s'en méfier. Disons déjà que c'est là l'apport nouveau du livre du Deutéronome à la question de l'idolâtrie. Le mot fort est ici « cherem », anathème, boycott. Il s'agit d'observer une nette distance par rapport aux sept peuples de Canaan. Pas de mélange avec eux. Les versets disent ici la stricte séparation entre Israël et les nations habitant sur la terre. Séparation due, bien sûr, à leur caractère d'idolâtre. Il ne s'agit pas d'un quelconque rejet de l'autre, comme on pourrait le croire à première vue. Certes, les Cananéens sont rejetés, mais pas parce qu'ils sont autres, étrangers. Au contraire, la Torah nous enjoint d'aimer l'étranger. Elle nous dit souvent, « Va'avta et ager, tu aimeras l'étranger qui guérit ma'item be'eretz Mitzrayim, quand vous avez été étranger au pays d'Égypte. » Non, ils sont rejetés parce qu'ils sont idolâtres. Or Israël, nous dit immédiatement le texte à la suite, est saint pour le Seigneur. Il est voué à la sainteté, ce qui signifie aussi à une stricte séparation avec ceux qui peuvent atteindre cette sainteté. Or, nous verrons que cette idolâtrie a peut-être à voir avec un certain rapport au monde et aux autres qui portent atteinte à la sainteté. Il s'agit là de la stricte application du verset des Nombres « Am levada dishkon vagoim lo itrashav » « Ce peuple résidera seul, solitaire, et ne sera pas compté parmi les nations » en Nombres 24. Séparation métaphysique, parce qu'elle s'enracine dans la vision métaphysique de tel ou tel peuple. Séparation qui a des implications sociales très précises. Séparation qui se dit en termes de brisure des idoles. Le geste est fort, violent même. Il est destiné à signifier fortement l'écart par rapport à toute idolâtrie. Car ce qui est rejeté, c'est moins le peuple que le principe idolâtre qu'il incarne dans sa vie. L'une des implications les plus connues de la séparation est l'interdiction des mariages mixtes, mentionnée ici. Ta fille ne la donne pas à son fils et sa fille n'en fait pas l'épouse du tien. Là encore, il ne s'agit pas ici d'un simple rejet de l'autre. La raison de cet interdit est donnée immédiatement, précisément le danger de l'idolâtrie. Ces mariages conduiraient à détacher Israël de son Dieu, à l'entraîner vers des cultes étrangers, dont on verra le sens par la suite. Notons que dans le verset, c'est le beau-père, le père de la mariée, qui détache le fils de Dieu, puisqu'il est écrit « qui assire, car il détacherait », et non « tassir, elle détacherait ». Quant au petit-fils né d'une femme étrangère, dit Rashi, il n'est plus considéré comme Israël, d'où le singulier « ton fils, Bincha ». Donc je poursuis ma lecture du Deutéronome. Quelques chapitres plus loin, il est écrit en Deutéronome 12, 1, 4. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, a ta destinée comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devez détruire, à votre d'Abdoun, tous les lieux, mes commotes, où les peuples possédés par vous les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur des hautes montagnes, Arim à Gvoim, Aramim, pardon, et sur les collines, à Gvaot, et au pied des arbres touffus, Etz Ra'anan. Renversez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux, Psile Elohim Tikdeun. Effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée, vous n'en userez point de la sorte avec l'Éternel, votre Dieu. Et les verbes, c'est toujours les mêmes verbes qui reviennent. Venitatstem et bechotam, veshibartem et matzotam, vashrem tisrafun beesh, upsilei Elohim tikdeun. Cette source semble répéter la précédente, pourtant elle introduit une nouveauté. Alors la répétition d'abord se laisse entrevoir dans l'action de renverser, de briser, de brûler. Ça, ce sont les bosquets que l'on brûle, non les statues. Et d'abattre, même si ici ce ne sont pas les arbres que l'on abat, ce sont les images de leurs dieux. En fait, il s'agit de statues, des psilim. Mais on se souvient que les statues elles-mêmes étaient faites de bois, d'où ce mélange entre les deux. La nouveauté, ici, c'est la question des lieux de l'idolâtrie. Les lieux, c'est les mekomot, makom. Ici, ces lieux sont clairement désignés, hautes montagnes, collines, arbres touffus. Bref, les Cananéens ne choisissent pas leur lieu au hasard. Ils préféraient des lieux naturels. Apparemment, leur culte revêtait la forme d'une sorte de culte de la nature. Les lieux en hauteur, comme les montagnes et les collines, étaient privilégiés. On se souvient en revanche que la montagne du Sinaï n'était pas particulièrement imposante. Jamais il n'est dit qu'elle était haute. Israël ne recherche pas la hauteur physique, et en Israël, les montagnes ne sont pas particulièrement hautes. Nous n'avons ni les Alpes ni l'Himalaya ici. Cela nous introduit à la question du rapport d'Israël à la nature, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici. Je crois que nous pouvons poser cette proposition cardinale. Il y a une méfiance viscérale de la Torah vis-à-vis de la nature. Ou plutôt, d'un attachement trop fort au paysage naturel. D'un enracinement des hommes dans un lieu, une patrie, au sens physique de ce terme. Israël n'a pas de rapport de fusion sentimentale avec sa terre. N'oublions pas que c'est d'abord une terre promise, qu'elle n'est présente qu'en tant que promesse, non dans sa présence charnelle ou physique. C'est une opposition au paganisme qui s'est traduite par une certaine distance, surtout dans les temps de l'exil, par rapport à la culture de la terre ou au travail de la terre. Car le travail de la terre va de pair souvent avec un amour immodéré, sacré de la terre, un attachement viscéral, presque corporel, à la terre, comme celui du premier cultivateur, Caïn, dont il est dit qu'il fut un travailleur, un serviteur de la terre, un Oved Adama. Et il fut aussi, évidemment, le premier assassin, on le sait. L'amour de la nature, qui est le produit d'une culture paysanne, traverse la culture occidentale des Grecs jusqu'aux écologistes d'aujourd'hui, à travers le retour à la nature, cher à Rousseau, romantique, etc. Apparemment, rien de mal à cela, au contraire. Où est le problème? Pourquoi cette méfiance, cette hostilité de la Torah? Parce que c'est dangereux, disent les versets. Le rapport viscéral de l'homme à la terre mène à la violence, au crime. Le sédentaire, le paysan, est un ennemi potentiel de l'homme, et d'abord de l'étranger, de l'autre, de l'homme différent. Le paysan est un homme enfermé dans ses préjugés, qui tiennent aux paysages connus, aux ancêtres, à la tradition qu'on ne remet jamais en question. Travail, famille, patrie. La terre, elle, ne ment pas. L'antisémitisme moderne a puisé dans cette idéologie paysanne, avec les figures françaises de Maurras, de Drummond, de Barrès. Le juif serait étranger à la France, à ses paysages, à sa terre. N'oublions pas que le nazisme s'enracinait de même dans un culte voué à la nature. Les juifs seraient l'antinature, d'après eux. Je ne peux pas développer ici cette idée, mais tous les ouvrages sur l'idéologie nazie analysent longuement l'enracinement de cette idéologie dans l'idée de nature. La République française a rompu avec cette idéologie d'arrière-garde. Elle se veut terre d'accueil, d'asile pour tous, pourvu qu'ils acceptent les principes de la République, bien sûr, liberté, égalité, fraternité. Il y a ici un accord potentiel entre République d'un côté et principe de la Torah de l'autre, qui explique en partie l'intégration des Juifs à la République française. Le fait qu'ils soient parfois le plus farouche défenseur de la République, même aujourd'hui où elle est en perte de vitesse. Dans un article magistral, Heidegger, Gagarine et nous, dans Difficile Liberté, à la page 299, Lévinas a bien mis en lumière cette distance entre la Torah et tous les bosquets sacrés, à savoir précisément ces arbres consacrés par les Cananéens au culte idolâtre. Je cite le passage de Lévinas, « Retrouver le monde, c'est retrouver une enfance pelotonnée mystérieusement dans le lieu, s'ouvrir à la lumière des grands paysages, à la fascination de la nature, au majestueux campement des montagnes. Là voilà donc l'éternelle séduction du paganisme par-delà l'infantilisme de l'idolâtrie depuis longtemps surmontée. Le sacré filtrant à travers le monde, le judaïsme n'est peut-être que la négation de cela. Détruire les bosquets sacrés, nous comprenons maintenant la pureté de ce prétendu vandalisme. Le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. Le judaïsme a toujours été libre à l'égard des lieux. » C'est à page 362. Difficile liberté. Fin de citation. Voilà un commentaire qui résume très bien l'enjeu de l'idolâtrie cananéenne qui trouve abri dans les lieux naturels et les bosquets sacrés. Les Cananéens furent peut-être les inventeurs du culte moderne de la nature. Or, ce culte en apparence innocent cache une face d'ombre, un versant sombre, la cruauté à l'égard des hommes, pour parler comme Lévinas. Car le culte de la nature est un culte de la patrie, comme ce qui m'est propre. D'ailleurs, si on parle de cruauté, on se souvient que les Cananéens offraient leur premier-né au Baal. Donc, ici, la Torah elle-même nous donne une indication de cette cruauté par rapport aux hommes. Donc, je reviens. Le culte de la nature est un culte de la patrie comme ce qui m'est propre. Et ce culte se traduit immanquablement par le rejet de l'autre homme considéré comme étranger. Précisément, les enfants d'Israël sont toujours considérés comme étrangers, non seulement en Égypte, mais même sur leur terre, comme le rappelle le nom en Lévitique, un verset que je cite souvent, « Vous êtes des étrangers résidant avec moi. » Gerim v'toshavim atem imadi. Je poursuis ma lecture, maintenant du Deutéronome, à travers ce motif de l'idolâtrie. Le chapitre 13 du Deutéronome est entièrement consacré à la question des influences, des interactions sociales qui peuvent conduire à l'idolâtrie. Je lis. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, t'offrant pour caution un signe ou un miracle, quand même s'accomplirait le signe ou le miracle qu'il t'a annoncé en disant « Suivons des dieux étrangers que tu ne connais pas et adorons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous faut suivre. C'est lui que vous devez craindre. Pour ce prophète, il sera mis à mort. » Et quelques versets plus loin. « Si ton frère, l'enfant de ta mère, si ton fils ou ta fille, ta compagne ou l'ami de ton cœur, vient secrètement te séduire en disant « Allons servir des dieux étrangers, que toi ni tes pères n'avaient jamais connus, tels que les dieux des peuples qui sont autour de vous, toi n'y accède pas, ne l'écoute point. » Fin de citation. Ces versets se présentent comme une énumération d'un certain nombre de personnes susceptibles de venir te séduire, t'inviter à aller adorer des dieux étrangers, toujours ce syntagme Elohim Acherim. Notons qu'il n'est pas précisé de quels dieux étrangers il s'agit, mais nous commençons à le soupçonner maintenant. Il s'agit des dieux cananéens qui pullulent sur la terre d'Israël, comme terre de Canaan. Donc le problème de ces versets n'est pas dans l'objet même de l'idolâtrie, mais dans ce qui conduit à leur vouer un culte. Or, les versets nous parlent d'une série d'influences. Cette liste d'influenceurs, entre guillemets, va de l'étranger, un prophète ou un visionnaire, au plus familier, au membre de ta propre famille, comme son frère, son fils ou sa fille, sa compagne ou l'ami de son cœur. Il y a un risque de séduction qui circule dans notre entourage. Et la Torah ne se lasse pas de faire la liste des membres de notre entourage, du proche au lointain. Le risque est grand, car l'homme, c'est un être social par nature, et c'est aussi un être éminemment influençable, surtout par ses proches. Or, il arrive que cette influence soit dangereuse. Il faut nous méfier des idées de notre entourage, même s'il s'agit de nos proches. Nous devons garder fidélité au Dieu d'Israël et ne pas céder à une quelconque pression sociale, car celle-ci existe, on ne saurait le nier, comme il apparaît dans le passage qui suit immédiatement. Je continue, c'est toujours le chapitre 13 du Deutéronome, au verset 13-18. « Si tu entends dire à l'égard de l'une de tes villes, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera pour y habiter, que des hommes pervers nés dans ton sein ont égaré les habitants de cette ville en disant « Allons, servons des dieux étrangers, que vous ne connaissez point », tu feras une enquête, tu examineras, tu t'informeras avec soin. Et si le fait est avéré, réel, si cette abomination, cette toeva, a été commise au milieu de toi, tu passeras au fil de l'épée les habitants de cette ville, tu l'avoueras avec tout ce qu'elle renferme, jusqu'au bétail, au tranchant du glaive. Tu en réuniras toutes les richesses au centre de la place, et tu livreras au feu la ville et tous ses biens, sans réserve, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Elle restera une ruine éternelle, elle ne sera plus rebâtie. Que rien de la cité maudite ne s'attache à ta main, afin que l'Éternel apaise sa colère, qu'il te prenne en pitié et te dédommage en te multipliant comme il t'a juré à tes pères. » Fin de citation. Là, ce n'est plus simplement une personne individuelle qui cherche à séduire et invite à l'idolâtrie. Maintenant, les séductions ont gagné une ville entière devenue idolâtre. Les versets disent maintenant visent maintenant une ville entière et non telle ou telle personne. À travers la ville, c'est une certaine société qui est condamnée. Société devenue perverse à la suite de sa dérive vers l'idolâtrie. Ces versets sont certes terribles, on pourrait dire qu'ils sont fanatiques, excessifs, outrés, mais ils visent un phénomène lui aussi excessif, les excès d'une société qui sombre dans la violence et la débauche. Car même si cela n'est pas dit, le contexte même du livre du Deutéronome laisse indiquer que l'idolâtrie dont il s'agit est faite de cela. De quoi s'agit-il exactement ? De l'influence. Ce que les versets mettent en lumière, c'est le dispositif de l'influence en société. La société est faite d'un certain nombre d'opinions. Or, ces opinions circulent à travers des jeux d'influence complexes et nombreux. Aujourd'hui, ce qui fait l'opinion, ce sont les médias, les discours des journalistes, des politiques, bien sûr, mais aussi les réseaux sociaux. Les versets mettent en garde contre les mauvaises influences, susceptibles de perdre une société, de l'entraîner vers le mal, la faute, la corruption. L'ensemble du chapitre 13 du Deutéronome, on l'a vu, évoque ce problème de l'influence. La Torah est extrêmement perspicace sur le fonctionnement d'une société. Bien avant toutes les théories sociologiques de l'opinion publique, prophète des temps modernes, comme disait Tocqueville, puisqu'en démocratie, c'est le nombre, la masse qui fait l'opinion, faute d'un critère plus pertinent. Ce qui est vrai est ce que professe la majorité. Eh bien, la Torah déjà nous met en garde contre certains hommes et certains groupes qui veulent s'emparer d'une société par la parole, par un discours démagogique. Attention, semble nous dire la Torah. Ne tombez pas sous le charme des démagogues, des incitateurs à la violence, des beaux discours qui vous conduisent à la faute. Or, nous autres modernes, nous savons qu'une société peut vite être égarée par quelques-uns, une minorité d'hommes qui, au moyen d'une idéologie démagogique, s'emparent du pouvoir et la conduisent à l'abîme. Une minorité perverse peut conduire une société entière vers sa perte. La violence, la barbarie, la corruption morale. On l'a vu au XXe siècle. Ces versets visent donc quelque chose de réel, un danger qui guette toute société humaine. Leur violence se justifie si l'on comprend l'enjeu qui les anime. La Torah sait la crédulité du peuple qui tombe facilement sous la férule de ceux qui manient habilement l'art de la parole. Déjà, Platon l'avait longuement analysé, cette façon de tomber sous la férule de ces orateurs, de ces sophistes, ces hommes politiques qui sont trop habiles. Son avertissement ici résonne fortement à nos oreilles de modernes. Et j'ajouterai ici simplement que ces versets résonnent encore plus fortement aujourd'hui, à l'heure de l'actuelle guerre de Gaza, puisque cette cité, on va dire la cité de Gaza, a été prise en otage par des hommes pervers qui ont organisé toute la vie autour d'une certaine idéologie totalitaire qui entraîne la violence. Je vous propose, pour achever cette réflexion sur l'idolâtrie dans la Torah, de lire quelques textes sur le même sujet tirés des livres des juges et des prophètes. Nous demanderons à leur suite. Se situe-t-il dans le sillage de ce qui est dit dans le Pentateuque ou apporte-t-il des éléments nouveaux ? Je commencerai par poser qu'il y a deux motifs majeurs de l'idolâtrie chez les juges et les prophètes. Les idoles comme morceaux de bois et l'idolâtrie comme prostitution. Le premier est plutôt connu, le second est le développement d'un thème déjà présent dans la Torah de Moïse. Donc je commencerai par le premier motif, les idoles comme morceaux de bois. Nous lisons en Isaïe 40. À quoi donc pourriez-vous comparer Dieu et quelle image lui donneriez-vous comme pendant ? La statue ? C'est le fondeur qui la coule, l'orfèvre qui la recouvre de plaques d'or, l'orfèvre encore qui la garnit de chaînettes d'argent. Est-ce trop pauvre pour une telle offrande ? Alors, on choisira un morceau de bois incorruptible. On se mettra à la recherche d'un ébéniste habile pour fabriquer une idole qui ne bronche point. Et un peu plus loin, en Isaïe 44, on lit « Ainsi parle l'Éternel, roi et libérateur d'Israël, l'Éternel Sébaoth. Je suis le premier, je suis le dernier, hors de moi, point de Dieu. » L'ouvrier qui travaille le fer manie une hache, attise le charbon, façonne l'idole à coups de marteau. Il y dépense toute la force de son bras, endure et la faim qu'il exténue et la soif qu'il épuise. L'ouvrier qui travaille le bois étend le cordeau, dessine l'idole avec la craie, la polie avec le rabot et la proportionne à l'aide du compas. Il la modèle en forme humaine, magnifique, simulacre d'homme pour être à la demeure dans la maison. Il s'est coupé des cèdres, il a pris un rouvre et un chêne en les choisissant vigoureux parmi les arbres dans la forêt. Il a planté des pins que la pluie fait grandir. Tout cela sert à l'homme de combustible. Il en prend une partie pour se chauffer, une autre pour allumer le feu qui doit cuire son pain. Puis encore, il fait un dieu, elle, et tombe à genoux, entaille une idole, pesel, et se courbe devant elle. La moitié donc, il la livre au feu. Sur cette moitié, il met rôtir sa viande, la mange et s'en rassasie. Ou bien il s'y chauffe et dit « Ah, la bonne chaleur, je sens la flamme !» Et puis le reste, il en fait un dieu, son idole. Il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières, il s'écrie « Protège-moi car tu es mon Dieu ». Fin de citation. Ce motif, nous l'avons déjà vu avec le Midrash de Genèse Rabba sur Abraham, casseur d'idoles. Il énonce très clairement « L'idole est un objet matériel fabriqué de main d'homme. Comment pourrait-elle être prise pour Dieu ? Celui qui en fait un Dieu ne fait que trahir sa bêtise, sa crédulité, et il ne reste au prophète qu'à se moquer de lui, comme on a lu. Et puis le reste, il en fait son Dieu. Un dieu, son idole, il l'adore, il se prosterne, il lui adresse des prières et s'écrie « Protège-moi car tu es mon Dieu ». Fin de citation. Il semble qu'à l'époque des prophètes, on se soit déjà rendu compte du profond infantilisme, pour reprendre le terme de Levinas, de ce culte, et les prophètes n'insistent pas outre mesure sur cet aspect primaire. En revanche, l'autre motif, celui de l'idolâtrie comme prostitution, comme znout, est nettement plus développé chez les prophètes. Encore, nous faut-il nous interroger tout d'abord sur le sens de ce verbe « liznot » dans le Pentateuque. Alors, prenons quelques versets comme exemple. En Lévitique, commençons par Lévitique 20, 5, il est écrit ושמתי אני את פניי באיש ההוא ומשפחתו, והכרתי אותו ואת כל ההולכים לזנות אחרי המולך. Donc tous ceux qui vont se prostituer au dieu Moloch. Donc ici, il ne s'agit pas de prostitution au sens courant, mais précisément de se détourner du droit chemin et d'aller vers l'idolâtrie. Encore une fois, je cite un commentaire de l'édition du Mossad Arav Kouk, Da'at Mikra, sur ce verset, de Menachem Boula. Or, le verbe lisnot est parfois explicitement employé au sens de la prostitution, ou du moins d'un certain rapprochement entre les sexes, comme dans le verset suivant, en nombre 25, « Vayeshev Israël Beshittim, vayechel ha'am lisnot et bnot Moab. » Et Israël s'installa à Shittim, et le peuple commença à se prostituer avec les filles de Moab. Qu'est-ce que ça veut dire, prostituer, ici? C'est une forme de mélange, en quelque sorte, entre les hommes d'Israël et les filles de Moab. Et on notera que, là encore, le lien entre prostitution et idolâtrie est patent, puisque à la suite, les enfants d'Israël adhèrent, vouent un culte au Baal Peor, qui est le dieu des filles de Moab. À la fin de la paracha de l'Eshlach Lecha, on trouve le verset suivant, que j'ai déjà cité, « Velotatou achel evavchem vachenechem, asher atem zonim acharei » Donc, ne suivez pas votre cœur et votre yeux, qui vous entraînent après eux, donc vers votre perte. Ici, ce sont le cœur et les yeux qui nous entraînent vers le mauvais penchant, sans connotation sexuelle ni idolâtrique, du moins pas explicitement. Enfin, en Deutéronome, ce verbe apparaît à nouveau dans le contexte de l'idolâtrie, je cite Deutéronome 16. וכמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר, הארץ אשר הובא שמה לבקיר בו, ועזבני ואפר את בריתי. Et ce peuple se lèvera et il suivra, donc Zana, des dieux étrangers. Et là, de nouveau, on a la racine Zana qui reprend le sens d'une déviation idolâtrique. À la suite de cette petite étude, donc très minimale, on conclura que l'idolâtrie et la prostitution peuvent aller parfois de pair dans la Torah, comme dans l'épisode de Shittim, mais qu'en général, la racine Zana signifie autre chose que le commerce sexuel moyennant de l'argent. Si l'on se reporte aux occurrences de cette racine dans le Pentateuque, on voit qu'il s'agit plutôt de l'idée de déviation par rapport au droit chemin. Zana a le sens d'une séduction qui nous entraîne vers une action mauvaise, vers une faute. Le verbe Zana connote donc une faute, une corruption, et pour tout dire, une infidélité à Dieu, puisque la faute est considérée, depuis Adam et Ève dans la Torah, comme une infidélité, une désobéissance à Dieu. Si l'on se tourne maintenant vers le livre des juges, on se rend compte que dès la mort de Josué, les enfants d'Israël sombrent dans l'idolâtrie. Or, cette idolâtrie est dite en termes de prostitution. Je lis en Juges 8, 33-34. Après la mort de Gédéon, les Israélites se prostituèrent de nouveau au culte des Baalim, Baïznou Achrea Baalim, et adoptèrent pour Dieu Baal Brit, oubliant ainsi l'Éternel leur Dieu, qui les avait soustraits au pouvoir de tous leurs ennemis d'alentour. Fin de citation. De quoi s'agit-il ? En général, on parle d'un culte idolâtre de nature sexuelle, puisque le terme de brit ici fait référence aux membres virils, comme dans la brit mila, la circoncision. Mais nous avons vu que le terme zana connote simplement l'idolâtrie comme une déviation du droit chemin, celui du Dieu d'Israël, pour suivre d'autres dieux. Et donc, cette idée de suivre d'autres dieux, ça réapparaît souvent, déjà dans le livre des juges, mais surtout chez les prophètes, comme on va le voir maintenant. Alors, on trouvera de nombreuses confirmations à cette idée d'idolâtrie comme infidélité à Dieu. Ce motif va revenir à de nombreuses reprises chez les prophètes, notamment au livre de Jérémie. Quand Jérémie évoque les multiples malheurs qui vont s'abattre sur Israël, il écrit la chose suivante, il dit, en Jérémie 5, 19, « Et quand vous direz, quel motif a l'Éternel pour nous traiter de la sorte ? Tu leur répondras, de même que vous m'avez délaissé, azavtem oti, pour servir des dieux étrangers. Ainsi vous aurez à servir des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. » Fin de citation. Ici se laisse clairement entrevoir le motif de l'idolâtrie comme infidélité, qui ressemble à s'y méprendre à l'idée de l'infidélité conjugale. Israël délaisse son Dieu comme une femme délaisse son bien-aimé. Le verbe la'azov est le même qu'on emploie pour la relation amoureuse. Ainsi, par exemple, la chanson de Brel « Ne me quitte pas » se traduit en hébreu par « Altazvi oti ». Cette image de la femme infidèle quittant son mari fidèle, donc son fidèle mari, va trouver son accomplissement chez le prophète Ézéchiel, lequel amplifie au maximum le motif de l'idolâtrie comme prostitution, infidélité conjugale. Je me réfère au chapitre 16 d'Ézéchiel. l'un des plus connus du livre. Il y évoque l'histoire d'Israël en termes rudes qui accusent Israël de tous les maux. Et avant de lire ces versets, je voudrais quand même rappeler qu'Ézéchiel est le prophète le plus dur, un prophète qu'aujourd'hui nous pourrions presque qualifier de rustre, c'est un homme de la campagne, un paysan mal poli, aux mauvaises manières, et son langage est direct et souvent presque grossier, on va le voir, il ne prend pas de gants, et sa lecture est parfois même gênante, choquante, tant il use de violence verbale. Alors, on va voir dans ces quelques versets, en Ézéchiel 16, 1 et surtout 22, 29. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. To'avotea. Du mot to'ava. To'eva qui veut dire abomination. Et au cours de toutes tes abominations, donc encore une fois, to'avoter, de tes débauches, taznutair, tu ne t'es pas souvenu des jours de ton enfance où tu étais nu et dénudé et tu te roulais dans ton sang. Et ensuite, après toute ta dépravation, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur Dieu, tu t'es bâti un tertre et tu t'es fait un haut lieu sur chaque place. À l'entrée de chaque chemin, tu as édifié un haut lieu, tu as souillé ta beauté, tu t'es abandonné aux passants, à tout passant. Tu as multiplié tes impudicités, taznutair. Et en fait, la traduction souvent change ce mot pour faire plus élégant en français, mais c'est toujours le même mot qui revient, on va voir le taznutair. Tu t'es prostitué, vatizni, aux enfants de l'Égypte, tes voisins, fort en chair, et tu as multiplié tes débauches, taznutair, pour me courroucer. Et voici que j'ai étendu ma main sur toi et j'ai réduit ta subsistance. Je t'ai livré à la merci des ennemis, les filles de Philistins, les Philistins confuses de ta conduite infâme. Ensuite, tu t'es prostitué, vatizni, voyez encore une fois, ça revient, aux enfants d'Ashour. Faute d'être assouvi, tu t'es prostitué avec eux, sans en avoir encore assez, vatarbi et taznutair. Tu as multiplié aussi tes débauches du côté des pays mercantiles des Cananéens. Et avec cela non plus, tu ne fus pas rassasié. On pourrait continuer d'ailleurs. Ça continue comme ça. C'est très répétitif. Mais j'imagine que cela suffit. Quelques versets plus loin, Ézéchiel évoque explicitement une femme adultère, Aïcha Amenaéphet, au verset 32, qui trompe son mari en prenant des étrangers pour amants. On l'aura compris, l'histoire d'Israël est contée ici en termes crus, qui sont aussi des termes allégoriques, celle d'une femme de mauvaise vie. Le lien entre idolâtrie, infidélité et prostitution qu'on trouve déjà en filigrane dans le Pentateuch, comme on l'a vu, connaît ici son expression la plus achevée, dans une sorte de paroxysme de l'accusation, une accusation d'une rare violence même pour les prophètes eux-mêmes. Que nous dit en substance cette allégorie ? Que l'idolâtrie est en son fond une infidélité, infidélité à soi-même, mais aussi infidélité à Dieu considéré comme un mari. Je vous rappelle que le Sinaï est considéré comme une noce entre Dieu et Israël. Les deux vont de pair. Si nous, Israël, sommes nés à nous-mêmes au moment de l'alliance du Sinaï, qui est une noce donc avec notre Dieu, il faut dire que l'infidélité à Dieu est ipso facto infidélité à nous-mêmes, infidélité à ce qui fait le fond même de notre identité et de nos principes de vie. Ainsi, Israël est toujours enclin à suivre d'autres peuples, à se mélanger à eux, à adopter leur culture et leur religion. Ainsi, sommes nommés les grands peuples de l'Antiquité, Égypte, Ashour, Philistins et Canaan. Israël abandonne l'alliance conclue au Sinaï pour se prostituer avec tous ces peuples. Notons qu'au-delà de la métaphore conjugale de l'infidélité et de la prostitution, ce passage est aussi un réquisitoire radical contre toute forme d'assimilation, stigmatisée ici en termes véhéments comme une infidélité conjugale, une forme de prostitution. Effectivement, c'est toujours... L'infidélité se traduit par l'adoption d'autres cultures, d'autres identités par Israël. Alors, en guise de conclusion, je propose de poser deux questions. La première question, c'est celle que j'avais déjà posée dans mon introduction du premier cours. Est-ce que la Torah est une doctrine ? Cette question s'impose lorsque nous parlons de l'idolâtrie qui semble supposer des idées vraies, ou fausse, derrière certaines pratiques idolâtriques. La représentation de Dieu, c'est une idée fausse puisqu'elle est interdite. Dieu n'est pas objet de représentation, il ne saurait être représenté. Toutes les pratiques idolâtriques semblent relever de cette erreur pour parler comme Maïmonide à propos de la génération d'Enoch. On a vu le mot de Maïmonide, c'était le mot Taout, qui était repris d'ailleurs par le Meshech Chorma, Taout, donc erreur. Toutes les pratiques idolâtriques donc, semblent relever de cette erreur. À en croire à Maïmonide, la Torah est une doctrine. Certes, Il est même allé jusqu'à énoncer des articles de foi au nombre de 13. Mais même en admettant l'idée maimonidienne que la Torah serait une doctrine, il est très difficile de se mettre d'accord sur ces grands principes. Tant les Juifs diffèrent dans leur conception du monde sur ce qui devrait relever des fondements même, la création, la révélation, ou alors la rédemption messianique. Je propose de dire alors que l'idolâtrie est certes un signe, une sorte de ligne directrice, qui nous indique des idées fausses, mais elle est loin de nous indiquer quelles sont les idées vraies. Elle trace une direction, une orientation de recherche, pas davantage. La seconde question concerne la pertinence de l'idolâtrie aujourd'hui. On pourrait dire que le monde moderne n'est plus idolâtre. Nous ne nous pressons non plus devant des statues en or ou en argent, comme les peuples antiques. Nous ne croyons plus aux morceaux de bois, ni aux bosquets sacrés. Certes, mais comme l'a dit Lévinas, la chose est bien plus délicate. Tout d'abord, les bosquets sacrés ne sont-ils pas présents dans l'idéologie écologiste qui sacralise la nature ? Je parle ici des écologistes radicaux, pas du premier militant venu. Je parle de l'écologie comme idéologie pour laquelle la nature l'emporte sur les hommes. Mais au-delà même de l'idée de l'écologie, qui se justifie bien sûr, il ne s'agit pas de critiquer l'écologie en tant que telle, les idées modernes, si elles ne sont plus en or ou en argent, les idoles modernes, si elles ne sont plus en or ou en argent, sont plus puissantes que jamais. Le monde moderne devenu postmoderne n'est pas moins idolâtre que l'ancien. Seulement, il est idolâtre autrement. Cette idolâtrie se dit en termes de valeur absolue, de valeur que nous idolâtrons. Valeur ou idée d'ailleurs. Je ne parle même pas ici des évidences. Le culte de l'argent, du marché, de la technoscience, de la société du spectacle, du sport ou du corps. J'en ai parlé d'ailleurs. Toutes choses auxquelles on pourrait trouver une certaine valeur, mais qui ne sont pas des absolus. Donc on ne devrait pas les idolâtrer. Or, on en fait des idoles, on les absolutise en général. Mais je parle avant tout de certaines valeurs, des valeurs. Toute notre modernité est faite de valeurs absolutisées, devenues des idoles. Car telle est la nature humaine qu'elle absolutise les valeurs. Par exemple, la liberté. Dans le système néolibéral d'aujourd'hui, ou l'égalité dans le communisme au XXe siècle, le néolibéralisme fait de la liberté de l'individu une valeur absolue. Donc c'est une idole, d'une certaine façon. Force est de le constater, nous sommes tous idolâtres par nature. L'homme est idolâtre par nature, les humains. La Torah vient précisément nous arracher à cette nature et nous demande de la surmonter dans une tension difficile entre les valeurs. Il s'agit d'inscrire ces valeurs dans la cohérence de l'organisation de soi et de la société. C'est ce que Manitou avait désigné par un syntagme lumineux, la complémentarité des valeurs. Et je terminerai ici avec cet appel à la complexité qui sait inscrire les valeurs les unes par rapport aux autres. À nous de connaître l'ordre subtil des valeurs. Toute la tradition juive, notamment la Kabbale avec l'arbre des Séphirot, nous apprend à le faire. Mais évidemment, ce serait déjà l'objet d'un autre cours. Je vous remercie de votre écoute et espère vous retrouver sur d'autres cours, que ce soit à Académ ou en présentiel, ici en Israël ou en France. Au revoir.